France Inter. Karine Bécard, Ali Badou. Le 7-9.
Vendredi 14 mai, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le spectre de la guerre civile en Israël. Les violences entre Palestiniens et Israéliens éclatent aussi entre Juifs et Arabes dans les villes mixtes du pays. En France, le ministre de l'Intérieur interdit la manifestation parisienne de soutien aux Palestiniens, trop risquée selon lui. On en parle à 8h20 avec le directeur de recherche émérite à Sciences Po, spécialiste de la société israélienne Sami Cohen. Avec nous aussi l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, Elias Sambar, et notre correspondant permanent à Jérusalem, Frédéric Mettezo, qui sera en duplex. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Les autres titres, Marion.
Vacciner, tenter plus contre le coronavirus. Pour économiser des doses, une infectiologue propose la sérologie pour tous avant injection. Pendant ce temps, la Grèce déconfinée se prépare à retrouver ses touristes. Nous y serons. Les footballeurs hauts savoyards de Rumilly-Vallières se cognent au Rocher Monégasque. Ils n'iront pas en finale de la Coupe de France. Enfin, nos meilleurs amis sont de retour le 27 mai. Mais qui, me direz-vous ? Réponse à la fin de ce journal.
Et votre invité ce matin à 7h50, Karine.
Il est un homme d'église qui a consacré sa vie aux plus démunis. Depuis 50 ans maintenant, cet Argentin d'origine se bat aux côtés des Malgaches. L'île de Madagascar, qui est toujours l'un des pays les plus pauvres au monde et qui doit faire face à la sécheresse et à la famine aujourd'hui. Avec son association Akamasoa, le père Pedro Opeka, infatigable combattant, sera notre invité tout à l'heure à 7h50.
Rendez-vous avec vous deux tout à l'heure.
France Inter.
Échange de tirs et confusion au Proche-Orient. L'armée israélienne a dit cette nuit être entrée dans Gaza avant de faire marche arrière, mais le conflit se poursuit. Mortel en 3 jours, 109 victimes côté palestinien, 7 côté israélien. Violence aussi au sein même des villes mixtes d'Israël, comme Lod, entre Jérusalem et Tel Aviv. 1/3 d'Arabes, 2/3 de Juifs. Le correspondant de France Inter, Frédéric Mettezo, s'est rendu dans cette ville désormais bouclée.
Une prière sous hélicoptère. Une centaine de musulmans sont devant la mosquée et sur le toit, parfois casqués avec masques à gaz. À moins d'un kilomètre, des juifs nationalistes, souvent armés. Entre les deux, la police fait tampon et demande aux Palestiniens de partir. Sami dit qu'il est là pour protéger sa communauté.
Tous les jours, ces juifs suprémacistes crient « Mort aux Arabes, ils nous ont agressés !» Et ils nous menacent aussi. Ils disent « Nous allons brûler vos mosquées, vos lieux de culte ».
Lundi, un citoyen juif a tué un citoyen arabe. Légitime défense, dit-il. La justice enquête. Puis, une synagogue a été brûlée. Des juifs ont vu leur appartement saccagé. Moshe se pose aussi en défenseur des siens.
On est là pour protéger les gens, les maisons. C'est notre pays. On est venu du monde entier pour vivre. Ils veulent nous tuer. Tout le monde ici est passé à l'armée. On sait se battre, on sait tuer. Ce n'est pas un problème.
La soirée n'est qu'une succession d'explosions, de tirs. Ça sent le gaz lacrymogène. Une alerte aux roquettes tirées depuis Gaza ajoute à la confusion. Demain, les Arabes israéliens commémorent la Nakba, la catastrophe, selon eux, qu'a représenté la création d'Israël il y a 73 ans. Lod, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et un nouveau front va-t-il s'ouvrir ? Hier soir, Israël a reçu 3 roquettes tirées du sud Liban. À 8h, France Inter vous emmène à Shatila, camp de Palestiniens au Liban. Sur le sujet, la France fracturée. Le ministre de l'Intérieur interdit la manifestation de solidarité avec le peuple palestinien, prévue demain à Paris. Risque de troubles à l'ordre public, dit Gérald Darmanin, qui se rappelle les heurts en 2014 dans le quartier parisien de Barbès. Laurence Perron, la décision divise les politiques.
L'ancien maire socialiste de Sarcelles, François Pupponi, aujourd'hui député MoDem, applaudit la décision du ministre de l'Intérieur.
On a trop l'expérience de ces manifestations pro-palestiniennes qui finissent mal. D'abord, qui mettent en cause gravement l'État d'Israël en criant mort à Israël et aussi mort aux Juifs, et qui finissent souvent avec des débordements.
Jean-Luc Mélenchon dénonce un déni de démocratie et une manœuvre politique aussi. Je cite, c'est évidemment dans le but de provoquer des incidents et de pouvoir stigmatiser cette cause. En 2014, effectivement, la manifestation de Barbès avait été interdite par Manuel Valls.
Je suis assez sidéré.
Éric Coquerel, député de la France Insoumise, renchérit.
Il y a des manifestations en ce moment à Chicago, à New York, et on se retrouve un des seuls pays qui a interdit une manifestation de solidarité avec les Palestiniens. Alors déjà, c'est un problème vis-à-vis des libertés, de la part de la France, un problème du côté du droit international. On le fait à la fois pour les Palestiniens, mais à la fois pour les chances de paix, in fine aussi pour le peuple israélien.
Du NPA aux socialistes et aux écologistes, la gauche dénonce cette interdiction qui intervient au lendemain de l'arrestation du président de l'association France-Palestine Solidarité.
Rassemblement demain dans plusieurs autres villes, mais sous haute surveillance.
7h05 sur France Inter. Hélène, sur la question, Marion, sur la question de la campagne de la vaccination anti-Covid, le pari est presque gagné pour l'exécutif.
19 200 000 personnes ont reçu au moins une injection. Le gouvernement se pique de vacciner 20 millions de Français à la mi-mai. Beaucoup de centres continuent à tourner pendant ce long week-end. Mais quid des personnes qui ont déjà eu le coronavirus? On sait qu'il ne leur faut qu'une dose, mais jusqu'à combien de temps après la maladie? Et faut-il un test sérologique pour savoir si on a déjà été infecté? Réponse d'Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris.
Quand on a déjà été infecté par ce virus, on sait que notre immunité est de bonne qualité et qu'elle persiste. Donc aujourd'hui, les recommandations, c'est d'attendre au minimum 3 mois et même de préférence 6 mois pour se faire vacciner. Chez une personne qui a déjà été infectée, quelle que soit la forme de la maladie, on obtient avec une dose de vaccin une réponse immunitaire qui est plus rapide, plus intense, même que celle qu'on obtient après la deuxième dose chez des personnes qui n'ont jamais été infectées par ce virus. Donc une dose est suffisante en cas d'infection préalable par le virus, même si cette infection remonte à 1 an maintenant. Qu'on pourrait se poser la question de faire un test sérologique rapide, là, ce qu'on appelle DETROD, avant la vaccination pour éviter une deuxième dose qui serait chez les personnes positives finalement inutile. Dans une période où on est avec un nombre de doses qui permet pas de vacciner tout le monde très vite, on pourrait imaginer que chez des personnes jeunes, on puisse faire une seule dose avec l'aide de ce test sérologique.
Odile Launay au micro France Inter de Daniel Messager. La vaccination pour les personnes déjà infectées, mode d'emploi sur notre site franceinter.fr. De l'air. C'est le cri du cœur des vacanciers qui profitent de ce pont de l'Ascension sur fond de recul de l'épidémie. C'est aussi celui de 40 scientifiques du monde entier ce matin. Ils réclament dans la revue Science la mise en place de normes de ventilation dans les bâtiments. Objectif, éviter à l'avenir de nouvelles infections respiratoires. Eux ont le nez au vent et même en intérieur. Les vaccinés américains peuvent tomber le masque, annonce le président des États-Unis. C'est un grand jour, se réjouit Joe Biden. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30 sur Inter. Nous laissons derrière nous les nuages noirs de la peur et de l'insécurité. Les mots du ministre grec du tourisme qui rouvre aujourd'hui le pays aux voyageurs vaccinés ou munis d'un test négatif. Fini les autorisations de sortie par SMS, fini les contrôles de police. Soulagement chez les Grecs. 1 sur 5 travaille dans le tourisme. À Athènes, pour le grand jour, l'acropole revêt ses plus beaux atours. Reportage Angélique Couronis.
Placéole au pied de l'acropole, devant la tour des vents, Kostas, la trentaine, regarde satisfait la vitrine de sa boutique. Il a tout refait. Les bijoux fantaisie côtoient les objets de décoration, couleurs acidulées. Il mise sur une reprise du tourisme, mais il reste prudent.
L'année ne sera pas bonne, on le sait, mais on espère qu'elle ne sera pas catastrophique, vu que l'année dernière, elle, était déjà très mauvaise.
Une saison moins mauvaise que l'année dernière, c'est exactement ce qu'espère le gouvernement conservateur qui redoute une nouvelle récession à l'automne dans le cas contraire. Nikos Tavernier, dans le quartier touristique de Plaka, est confiant.
Nous ressentons comme une nouvelle brise qui souffle. Nous pensons que tout ira très bien car nous sommes préparés. Nous suivons toutes les directives de l'État. Nous appliquons fidèlement les règlements.
Selon le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, la totalité des résidents permanents des îles devrait être vaccinée d'ici la fin juin. Cela devrait limiter la propagation du virus, mais une grande partie du corps médical émet de sérieuses réserves. Athènes, Angélique Couronis, France Inter.
Le tourisme qui reprend des couleurs. Le chiffre d'affaires de la plateforme de location Airbnb bondit au premier trimestre, 52% de plus.
Troisième jour à traquer le meurtrier des Cévennes et les recherches sont parties pour durer, estime la préfète du Gard.
Les moyens sont là pour retrouver celui qui aurait tué son patron et un collègue mardi dans une scierie du village du Plantier. 350 gendarmes, 8 hélicoptères, un appel à témoins et ce message aussi du père du suspect diffusé dans la forêt. Il n'y aura pas de feu si tu te rends. courant. Les enquêteurs ciblent une zone réduite, 15 km sur 15, mais Ariane Grissel, l'homme, connaît très bien la région.
Le jeune homme sillonne régulièrement le secteur pour s'y entraîner au maniement des armes, lui qui voulait être tireur d'élite. Pour les enquêteurs, tout porte donc à croire qu'il est resté dans ce qu'ils appellent sa zone de confort. Éric Morel est le procureur de la République de Nîmes.
C'est un homme apte à la survie en milieu hostile, qui a l'habitude de faire des randonnées en montagne. C'est un chasseur. Pour autant, on n'a retrouvé aucune relation avec une structure survivaliste, aucun propos démontrant qu'il adhère à l'idéologie survivaliste.
Autrement dit, le meurtrier n'est pas inséré dans un réseau qui pourrait l'aider à organiser sa fuite, d'autant qu'il est décrit comme très solitaire, même si la vie familiale de cet homme, qui est père d'une fillette d'un an, semble stable. Quelques jours avant le double meurtre, il se met à aller travailler avec un gilet pare-balles, mais n'a jamais proféré de menaces envers ses collègues. Après le crime, le tireur part sans téléphone, sans ravitaillement et avec plusieurs armes, comme le rappelle le général Philippe Haute, commandant en second de la gendarmerie de la zone sud.
L'individu, comme vous le savez, est armé, surtout d'une arme longue, avec une lunette d'un calibre suffisant pour pouvoir tirer avec précision, puisqu'il est entraîné à plusieurs centaines de mètres.
De nombreux sacs de sable ont été retrouvés au domicile du jeune homme. Les enquêteurs se demandent donc s'il n'a pas installé quelque part un poste de combat pour, comme l'envisage le chef des gendarmes, les attendre sur son terrain.
C'est peut-être l'épilogue du feuilleton préélectoral en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président sortant, Renaud Muselier, présente cet après-midi ses listes. Celle pour le scrutin régional a désormais le soutien de la secrétaire d'État LREM, Sophie Cluzel. L'espoir était très beau, mais le rocher trop haut. Les footballeurs amateurs de Rumilly-Vallières n'iront pas en finale de la Coupe de France, battue 5-1 hier par les pros de l'AS Monaco. Mercredi, ce sont donc les Monégasques qui affronteront le PSG, Cédric Guillot.
La finale de rêve entre le Paris Saint-Germain et Monaco n'est évidemment pas la finale rêvée pour les amateurs de Rumilly-Vallières et leur entraîneur Fatsa Amgar.
On a fait en partie ce qu'on voulait, on a posé quelques problèmes à Monaco quand même. Voilà, et après on a pêché aussi physiquement sur la deuxième mi-temps. Et surtout, on a vu ce que c'était que le haut niveau. Les erreurs se payent cash et on l'a appris à nos dépens.
Sérieux et appliqué, les joueurs de Monaco ne voulaient pas laisser passer l'occasion de s'offrir une première finale de Coupe de France depuis 2010 et de rejoindre le Paris Saint-Germain pour un choc royal mercredi soir au Stade de France. Le milieu de terrain monégasque, Aurélien Tchouaméni.
Le PSG, ça reste quand même la meilleure équipe de notre championnat sur le papier. Ils ont des joueurs de classe mondiale, donc non, je pense qu'on va être outsider. À nous de mettre en place ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait depuis le début de saison pour essayer de les embêter et de gagner ce match.
Battu en finale en 2010 par le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco voudra prendre sa revanche mercredi au Stade de France face à une équipe parisienne que les monégasques ont battu deux fois cette saison en championnat.
PSG Monaco, ce sera mercredi prochain. Et puis c'est l'heure du petit quiz du matin. Écoutez cette musique. Je vous dis rien, Ali.
Friends.
Ouais, Friends, c'est le thème revisité de la série, car Friends revient, ça y est, c'est officiel, un seul épisode de retrouvailles le 27 mai prochain. Et en plus du casting habituel, on nous promet d'autres amis, Justin Bieber ou Lady Gaga, excusez du peu.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Merci,
on verra.
Marion Lourd. Secret d'info dans 3 minutes, enquête sur l'assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia.